Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Député européen, vous êtes à la tête du mouvement Place Publique, député européen au sein du groupe socialiste et démocrate. Alors vous avez œuvré en tant que député européen pour que le Parlement européen adopte il y a deux jours une résolution qui condamne le régime chinois. Et ce qui est en cause dans cette affaire, c'est le travail forcé, imposé aux minorités. Alors on parle beaucoup des Ouïghours, mais il y a aussi les Kazakhs, les Kirghizes. Une forme d'esclavage, dites-vous. Dans quelles conditions précises travaillent et vivent ces minorités ethniques et religieuses
si
en Chine?
Si on peut appeler ça une vie. Hein.
Depuis 4 ans, un peuple est menacé d'éradication. Depuis 4 ans, des centaines de milliers, entre 1,8 et 3 millions d'êtres humains sont parqués dans des camps. Depuis 4 ans, ces gens parqués dans des camps sont utilisés comme esclaves. Comme esclaves par le régime chinois pour produire nos chemises, nos vêtements, nos pulls, nos chaussures Nike, nos sweats Zara. Et ces gens sont pris de force et placés comme les esclaves du temps des pharaons ou des champs de coton dans des usines qui sont les fournisseurs, en fait, des grandes marques internationales. Depuis 4 ans, dans la région autonome des Ouïghours, eh bien,
c'est au nord-est de la Chine.
Nord-ouest, oui. C'est au nord-ouest de la Chine. C'est une région stratégique pour la route de la soie, qui est le grand projet d'expansion chinois. Et depuis 4 ans, donc, on éradique une identité, une culture, un peuple. On détruit les mosquées, on met des gens en camp de concentration parce qu'ils lisent le Coran ou parce que les femmes n'ont pas la bonne longueur de jupe. Depuis 4 ans, il y a des campagnes de stérilisation massives des femmes ouïghours, et on vise à remplacer la population locale par des Han, qui sont
des Chinois
Han, qui sont plus malléables et plus fidèles au régime communiste. Et donc on a là la définition même d'un crime contre l'humanité. Et depuis 4 ans, face à ce crime contre l'humanité, il y a un silence assourdissant.
On va en parler de la réaction internationale. Juste sur les conditions de vie, vous parliez de stérilisation forcée. Est-ce qu'il s'agit donc pour autant d'un génocide ?
Vous savez, moi, je fais très attention, ça fait des mois et des mois que je me bats pour les Ouïghours. Je fais très attention à ne pas employer un mot qui puisse ensuite être remis en cause. C'est un crime contre l'humanité et il y a les éléments constitutifs, selon le droit international, du génocide. La stérilisation massive et systématique des femmes pour les empêcher de faire des enfants, pour empêcher un peuple de perdurer, c'est constitutif de l'acte de génocide. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a, comme il y avait en Europe entre 40 et 45, l'extermination de tous les individus d'un peuple ? Non. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la menace d'éradication d'un peuple en tant que peuple ? Oui. Vous savez, il y a une cérémonie dans les camps qui résume bien la politique chinoise. Dans ces camps, chaque matin, les détenus sont rassemblés dans la cour et sont invités, chacun individuellement, à renoncer à leur foi, à renoncer à leur langue, à renoncer à leur culture, à renoncer au fait d'être ouïghour. Et peut-être alors, en tant qu'individu, s'ils ne sont plus un peuple, peut-être alors, en tant qu'individu, seront-ils autorisés à survivre pour aller travailler dans les usines et pour produire eh bien, les biens qui nous préoccupent tous les jours.
Vous venez parler de camps, des camps donc dans lesquels sont parqués au moins 1 million, je ne connais pas le chiffre précis, je ne sais pas s'il existe d'ailleurs, de musulmans ouïghours. Camps de rééducation, la Chine répond que ce sont des centres de formation professionnelle ?
Oui, c'est même eux qui ont appelé ça des centres de rééducation. C'est la parfaite linguistique ou rhétorique maoïste, les centres de rééducation. C'est des endroits fermés où on déporte les gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, où les femmes sont violées, où les gens sont exécutés et où aucun œil extérieur n'est autorisé à pénétrer. Vous savez, cette région, elle est complètement fermée. On a un système de surveillance absolument hallucinant et loin d'être un crime médiéval ou un héritage d'un passé purement communiste, c'est au contraire une dystopie. C'est l'avenir. Vous savez, il y a des codes-barres sur les maisons. Il y a les codes-barres sur les maisons des Ouïghours et la police, quand elle passe, peut flasher et savoir combien de gens sont là, combien de prières par jour ils font, est-ce qu'ils boivent du vin, est-ce qu'ils parlent mal du Parti communiste.
Système de surveillance par Internet interposé.
Oui, et d'ailleurs, tout cela organisées par des marques qui ont pignon sur rue chez nous, comme Huawei.
Et il y a un géant chinois du commerce en ligne Alibaba qui a mis au point, qui a créé un logiciel pour identifier les Ouïghours, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance faciale. Ça va jusque-là.
Ce logiciel, c'est Huawei, en fait.
C'est Huawei, d'accord.
Il y a même une alerte qui vous alerte si vous croisez un Ouïghour, enfin si un Ouïghour passe devant une des caméras de reconnaissance faciale. Donc en fait, on est vraiment dans une dystopie orwellienne. On est dans un monde qui, loin d'être un héritage du passé, est peut-être notre avenir. Et peut-être notre avenir, c'est un contre-modèle. Vous savez, chez nous, on a du mal à imaginer qu'il peut y avoir des contre-modèles. On vit dans une illusion totale, qui est celle que le monde entier marche vers la démocratie et qu'en fait, les gens sont un peu en retard. Alors, Vladimir Poutine, il n'est pas encore démocrate. Xi Jinping, eh ben, il n'est pas encore démocrate. Ben non, ils inventent des modèles qui sont tout aussi modernes que nos démocraties, mais qui sont l'antithèse sur le plan des principes et sur le plan des pratiques. Et donc, il faut arriver à comprendre que ce modèle-là, eh ben, il est en pleine expansion et que même chez nous, il a des adeptes. Et que la mondialisation, loin d'avoir produit l'universalisation des droits et de la démocratie, la mondialisation a résulté en quoi ? Eh bien, l'explosion de modèles autoritaires extrêmement puissants et face à cela, des démocraties très apeurées, peu sûres de leurs propres principes et extrêmement faibles.
Là, vous parlez de l'Europe.
Je parle de l'Europe.
Et Pékin justifie ces camps dits de rééducation, centre de formation des esprits pour remettre dans le droit chemin des musulmans islamistes qui commettraient des attentats. Que vaut l'argument ?
Au nom de la lutte antiterroriste, on va éradiquer un peuple. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on définisse ce que c'est que le terrorisme. Qui est terroriste aujourd'hui en Chine ? Le terrorisme, c'est un acte de violence extrême qui vise à terroriser l'ensemble d'une population. Ce que fait le gouvernement chinois aujourd'hui dans le Xinjiang, c'est du terrorisme. Donc qui est terroriste ? Qui est terroriste ? Sinon, ces dirigeants chinois, parfaitement identifiés, parce que là, c'est pas une nébuleuse terroriste, par contre, on sait très bien qui fait quoi, qui réduisent un peuple en esclavage et qui stérilisent massivement les femmes, qui font des viols collectifs pour les récalcitrantes, c'est-à-dire que les hommes sont invités à regarder une femme se faire violer. Ça, c'est du terrorisme. Et donc, le régime de Pékin est un régime, dans le Xinjiang, un régime terroriste.
Alors, Raphaël Glucksmann, dites-nous en quoi la communauté internationale est complice de tout ça ?
D'abord, elle est complice par le silence. Pendant 4 ans, il y a eu cette déportation et cette politique systématique d'éradication du peuple ouïghour. Et pendant 4 ans, nos dirigeants ont regardé leurs chaussures, leurs chaussettes. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu une condamnation. Aujourd'hui, enfin, on se met à parler dans les hautes sphères des dirigeants européens, mais on parle mezza voce et on parle simplement sous la pression des mobilisations sur les réseaux sociaux.
La Chine a un certain poids économique.
Et bien sûr que la Chine a un poids économique. Bien sûr que la Chine a un poids économique. Mais les complicités vont plus loin que cela, parce qu'en réalité, ce crime qui pourrait nous sembler extrêmement lointain, eh bien, il fait partie de notre quotidien, parce qu'il y a les patrons cupides de Nike, de Zara, de tant d'autres multinationales qui ont bénéficié le plus de cette globalisation et qui, aujourd'hui, bénéficient de la réduction d'un peuple en esclavage. Vous savez qui construit les chaussures Nike ? Qui fabrique les chemises Zara ? C'est pas Zara ou c'est pas Nike, c'est des fournisseurs chinois qui, eux, exploitent des dizaines de milliers d'êtres humains qui travaillent sans être payés et sans avoir le droit, de refuser de travailler.
Là, c'est aussi à chacun de réagir. C'est-à-dire, on peut regarder les étiquettes, on peut boycotter certains produits, notamment le coton, des produits en coton.
Mais c'est à chacun de réagir et chacun réagit. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui participent à nos campagnes sur les réseaux sociaux, en ce moment même, contre les marques qui bénéficient de l'esclavage des Ouïghours. Mais c'est pas à chacun de réagir. Ça arrive. Maintenant, ce qui n'arrive pas, malheureusement, c'est la réaction du législateur. C'est le fait de rendre impossible ce système d'exploitation. Et aujourd'hui, on est en train de vous comprendre ce qu'est réellement cette globalisation. Une marque multinationale, son but, c'est d'avoir des productions au plus bas coût possible. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus bas coût qu'un esclave ? Aucun. Donc finalement, on aboutit à avoir des esclaves qui participent à la fabrication de nos biens quotidiens. Et donc ce qu'il faut, c'est que le législateur prenne son courage à deux mains et explique à ces firmes, à ces multinationales, que tout cela prend fin. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est une pyramide d'irresponsabilité, si vous voulez. Et quand vous êtes Nike ou Zara, vous n'êtes responsable de rien, puisque c'est pas vous qui fabriquez, c'est pas vous qui violez les droits humains. Mais simplement, c'est vous qui fait de l'argent sur les violations des droits humains. Et donc, il est temps que le législateur, c'est le devoir de vigilance sur lequel je travaille avec d'autres au Parlement européen, une législation européenne, qui remette de la responsabilité là-dedans et qui dise, vous êtes responsable de l'ensemble de votre chaîne de production. Vous avez voulu délocaliser pour faire plus d'argent. Vous avez voulu, eh bien, démanteler l'appareil productif chez nous et aller produire en Chine. Eh bien, désormais, vous serez responsable de tout ce qui permet de fabriquer une chaussure Zara, de tout ce qui, une chaussure Nike, ou de tout ce qui permet de fabriquer une veste Zara.
Et vous avez le sentiment que cette vision va être entendue et mise en place par vos coups de boutoir contre le régime de Pékin ?
Ça bouge. Évidemment, il y a des intérêts immenses face à ça. Dans
la résolution. Ça peut aboutir à une crise diplomatique.
Mais parfois, il faut mieux avoir une crise diplomatique qu'un génocide en silence.
Non, et souvent, la réelle politique reprend le dessus. Hein.
Mais bien sûr, mais parce qu'il y a des intérêts immenses. Mmh. La Chine, c'est l'atelier du monde, c'est le premier marché en expansion. Les marques ont besoin des ouvriers chinois pour produire à bas coût et ont besoin du marché chinois pour vendre extrêmement cher leurs produits. Donc il y a une forme comme ça de dépendance vis-à-vis de la Chine. Mais la vérité, elle est beaucoup plus nuancée. En réalité, la Chine est tout aussi dépendante de l'Europe que l'Europe est dépendante de la Chine. Si demain, on met des frontières au marché européen pour les produits de l'esclavage, si demain, on interdit des firmes chinoises de vendre sur le marché européen, eh bien l'économie chinoise s'effondre. Nous sommes le premier marché du monde. Nous sommes la première en Europe, la première puissance commerciale du monde. Et donc, nous ne sommes pas ontologiquement faibles. Nous décidons d'être faibles. Nous décidons d'être un nain politique. Nous décidons de ne pas utiliser les outils de la puissance. Nous décidons de ne pas aller justement à ce rapport de force. Et bien sûr, personne ne veut entrer en guerre contre la Chine. Mais entre ne rien faire et la guerre, il y a un espace qui s'appelle la politique. Et la politique a été désertée par les leaders européens qui ont décidé de se prosterner devant le dieu commerce. Et si Zara ou...
On les a bien cités déjà ce
Adidas,
matin.
Non mais parce qu'il faut
on
les citer.
On a bien compris. Oui,
mais émet le moindre son, eh bien, les dirigeants politiques européens se couchent. Si Xi Jinping fait un froncement de sourcils, eh bien, on dit attention, il ne faut pas froisser la Chine. Non, c'est pas comme ça qu'on s'affirme. Si on a des principes, si on a une volonté politique, eh bien, on doit être capable d'entrer dans un rapport de force avec un système esclavagiste qui éradique un peuple.
Raphaël Glucksmann, quelques questions d'actualité politique en France. À commencer par hier, ce selfie. Selfie en vidéo du chef de l'État en guise de bulletin de santé. On a tout, la toux, la fièvre, la fatigue, les traits tirés. J'ai peut-être fait preuve de négligence, a dit le chef d'État. Cette vidéo sur smartphone, c'est mieux que l'ancien bulletin officiel de santé à l'Élysée?
Franchement, je veux dire, je veux pas créer de polémique. Il fait une vidéo pour expliquer comment il va. J'espère qu'il va se rétablir vite. D'ailleurs, il pourra du coup s'occuper de problèmes sérieux qu'il a jusqu'ici délaissés. C'était plutôt normal qu'il communique sur son état de santé. Les gens se demandent comment il va. J'ai pas du tout envie. J'ai vu qu'il y a une polémique naissante sur son dîner de la majorité,
Même Jean-Luc Mélenchon a dit qu'ils étaient... Il y a eu deux dîners, en fait, qu'ils étaient suffisamment à distance,
voilà,
etc. Bon,
il y a au moins un avocat qui voudrait...
Il est malade, j'espère qu'il va aller mieux, et je trouve normal qu'il informe les Français de son état de santé.
Et il veut le faire quotidiennement. À propos du calendrier de vaccination,
je préfère ça, honnêtement, au mensonge habituel de la 5e République, où on explique que tout va bien alors que le roi est malade.
Donc, en Chine, ça pourrait pas se passer, ça.
Donc à la limite... Honnêtement, c'est un progrès. On a eu des présidents qui étaient malades, où on expliquait aux Français qu'il se passait absolument rien, et on prenait les gens pour des imbéciles. Donc là, à la limite, qu'ils communiquent de manière directe et détendue pour rassurer et être transparent, tant mieux.
Faites-vous partie de ceux qui redoutent des effets secondaires aux futurs vaccins en France ?
Alors moi, je fais partie de ceux qui exigent une transparence, mais aussi de ceux qui font confiance à la science.
Alors, vous ferez vacciner ?
Moi, je me ferai vacciner si le vaccin est autorisé.
Oui, jusqu'à ce qu'il arrive à vous, parce que vous êtes jeune.
Voilà, donc je ne serai pas du tout dans la première vague de vaccination, ni dans la deuxième, probablement dans la troisième comme tout le monde.
Voire la quatrième,
je ne sais pas combien il y en aura. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument rétablir la confiance dans la science. Ça passe par deux choses, à mon avis. La première chose, c'est une plus grande transparence. Et là-dessus, il faut reconnaître quand même que les Européens prennent plus de temps pour faire le diagnostic qu'aux États-Unis ou au Canada, et que donc, a priori, il y a quand même un sérieux plus fort sur le processus de validation. Il faut qu'ensuite ce soit transparent et qu'on puisse commenter et qu'on puisse discuter.
Il y a trois étapes de validation, de l'Europe jusqu'au comité en France.
Voilà, et d'ailleurs c'est fait à l'échelle européenne. D'abord, le Et la deuxième chose, donc c'est, il faut imposer une transparence, parce que c'est vrai que le complotisme dont on parle naît souvent de l'opacité des laboratoires et de l'opacité du discours descendant. Mais il y a aussi un combat à mener contre cette irruption de folie d'anti-science. Je veux dire, on a besoin de ce vaccin. On va pas continuer pendant une nouvelle année à vivre 2020. À un moment, il va falloir qu'on sorte de ça, parce que quand on dit oui, mais c'est l'économie, mais l'économie, c'est aussi notre vie. Enfin, je veux dire, on peut pas continuer à avoir les restaurants fermés, les gens qui meurent et l'économie qui s'effondre. On a un moment. La science qui nous permet de se faire vacciner, il va falloir se faire vacciner. Moi, je me ferai vacciner, évidemment.
Vous comprenez que la culture ne soit toujours pas considérée comme un, j'allais dire, un bien, mais en tout cas essentiel.
Non, j'ai un immense problème avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez des queues et devant les grands magasins qui sont bondés. Vous avez des métros qui sont bondés. Vous avez des lieux où la propagation du virus est potentiellement bien plus forte que dans un cinéma, par exemple, où on respecte les conditions sanitaires et les distances, ou dans un théâtre. Et donc, il y a là un problème sur la définition de l'essentiel. C'est-à-dire que, finalement, la consommation de biens, qui est importante pour l'économie, mais qui est dangereuse si on est dans la surconsommation, eh bien, est considérée comme essentielle. Par contre, le fait de vivre sa vie culturellement est considérée comme superfétatoire. Donc là, moi, j'ai un vrai problème de logique et de cohérence et de choix politique, de hiérarchisation. Quand vous êtes face à un danger, en fait, la politique, c'est d'établir des priorités et des hiérarchies. On voit bien là que la culture n'est pas une priorité.
Il nous reste quelques minutes, juste pour parler un peu de politique et de votre mouvement Place Publique, 2 ans après sa création. À quoi sert désormais ce mouvement que vous aviez cofondé à l'origine pour unir la gauche, excepté la France Insoumise?
Apporter des causes que personne ne veut porter. Je vais vous dire, qui se mobiliserait aujourd'hui à gauche ou chez les écolos sur les Ouïghours? C'est pas des sujets qui sont électoralement payants.
Non, donc mais c'est un sujet que vous pouvez porter parce qu'il est au niveau européen, donc avec les socialistes.
Non, c'est un sujet que je porte avec Place Publique et surtout avec des centaines de milliers de jeunes en France d'abord. Et ensuite, c'est justement l'esprit qu'on a voulu insuffler, c'est de dire, on va sortir des thèmes traditionnels et essayer de porter des causes dans la société, et que c'est une nouvelle manière d'écrire la politique. C'est une manière dont on n'a pas l'habitude, c'est pas du commentaire politique habituel, c'est pas de la réaction permanente aux polémiques suscitées par un ministre ou par un président. C'est de porter des causes. Donc maintenant, un des objectifs qu'on s'était fixé en créant ce mouvement, c'était de rassembler la gauche. Est-ce qu'on a réussi? Franchement, je vous demande autour de la table. Évidemment, non. Évidemment, c'est un échec flagrant. Évidemment, la gauche est désunie. Évidemment, c'est un concours de monopoly pour savoir celui qui a le plus d'argent en banque, en espérant que tous les autres se couchent devant. Donc là-dessus, si vous voulez, moi je suis sincère, on n'a pas atteint notre objectif. Sinon, vous auriez un mouvement social écolo qui serait aux portes du pouvoir et qui, aujourd'hui, représenterait une alternative crédible à ce duel entre Macron et Le Pen qu'on voudrait à tout prix éviter.
Pardon de vous presser quelques secondes sur les 100 ans du concours de beauté en France. Ça fait un siècle que ça dure. Quel regard vous portez sur le concours Miss France qui sera en direct ce soir?
Franchement, vous voulez que je vous dise, j'ai jamais regardé ce concours.
Mais dans sa philosophie, dans sa conception?
Je sais pas, il y a un concours Mister France aussi ou pas?
C'est pour ça que je vous pose la question. Alors,
on n'a qu'à faire un concours Mister France et comme ça, ce sera
égal. Je crois
égal.
Que ça existe.
Je pense. Très bien.
Ça fait moins d'audience. Est-ce que
c'est retransmis sur TF1?
Non.
C'est tout le problème. C'est donc il y a vraiment un problème d'objectivation de la femme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui serait bien, c'est que la préparation, puisque c'est lié à la question précédente, de la prochaine élection présidentielle, soit pas un concours de Mister France ou de Miss France, mais bien quand même quelque chose qui nous porte à créer une dynamique d'alternative. On n'a pas des masses de temps. Dans 10 ans, si on n'a pas réagi, on est tous en train de crever à cause du dérèglement climatique. Et donc, franchement, on s'en moque de savoir qui a le plus d'argent en banque, à gauche, au Monopoly.
Raphaël Glucksmann, merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Merci et bonne journée. Il est 9h20.